Alors, est-ce que d'abord tu peux te présenter un peu ton parcours, et puis musical bien entendu, et puis et ben, le groupe Charge.
Alors moi je m'appelle Loïc, je suis batteur de Charge, j'ai commencé la batterie il y a des années, j'ai joué dans pas mal de groupes avant de voir une annonce sur internet d'un groupe qui cherchait un batteur, et c'était Charge. Et Charge c'est un groupe qui a toujours eu en fait un style assez éclectique, quelle que soit l'orientation musicale, ils étaient beaucoup plus métal au début, et donc on a pris une orientation beaucoup plus rock là. Et donc, quand je suis entré dans le groupe se composait de Sacha et de Raline, en 2010, en tout cas. On a tourné en trio pendant un certain temps, et puis Lionel a rejoint le groupe à la basse, donc une deuxième basse, en 2012. Et depuis, on tourne sous cette formule et ça fonctionne plutôt bien.
Et justement, toi, sur tes influences personnelles, enfin, je sais pas, les musiciens qui ont pu t'inspirer ou ce qui t'a fait démarrer la batterie ?
Alors moi, ce qui m'a fait démarrer la batterie, c'est Metallica et Maiden.
D'accord.
Et Metallica, c'est l'influence commune aux quatre membres de Charge. On est des fans de groupe. Et donc, effectivement, c'est. Je pense, pour un. Pour au moins deux ou trois d'entre nous, c'est ce qui nous a fait démarrer la musique, en fait. Vraiment, c'est une influence majeure, et ça a vraiment eu un impact sur nous. La musique a vraiment eu un gros impact.
Donc, gros impact, mais pas... comme tu le disais, vous avez peut-être un peu adouci votre son, et vous ne souhaitez pas essayer d'évoluer dans des sonorités proches.
Oui. On a cette influence commune, qui est donc Metallica, et puis le heavy metal en général, mais c'est vrai qu'on a... On a aussi beaucoup d'autres choses. Donc, par exemple, Sacha aime beaucoup le blues, le rock des années 70. Lionel aime des choses assez groovy, des groupes un peu stoner aussi. Moi, j'écoute carrément des choses qui n'ont rien à voir avec le rock, la musique traditionnelle irlandaise, du heavy metal. Ravine, lui, il est dans des trucs pré-metal, thrash metal. Donc, tous ces mélanges d'influences. Plus le fait de vendre d'une formule un petit peu atypique pour un groupe de rock, c'est-à-dire deux basses, une guitare, une batterie, ça nous orientait vers des choses un peu différentes. C'est-à-dire qu'on a toujours ce fond hard rock, metal dans notre musique, mais on fait quelque chose d'assez rock. Et en fait, on veut faire cette musique rock qui est très brute de décoffrage, très spontanée, très énergique, un peu sans fioriture d'une certaine manière. Ça nous permet de concilier un peu tout ce qui nous influence au niveau musical.
D'accord, ok. Donc tu le spécifiais, autant on peut avoir l'habitude sur un groupe métal d'avoir trois guitaristes, mais deux bassistes, c'est assez inhabituel. Donc c'est un peu surprenant, enfin c'est, on pouvait se dire, bon, vous aviez rencontré un quatrième musicien, très bien, mais il était bassiste, vous en aviez déjà un, bon, qui en plus chantait, donc c'est,
ouais. C'est presque l'idéal, quoi. Le bassiste chanteur, les deux membres les plus durs à trouver dans un groupe.
Ouais, mais on s'est dit, ça a tellement matché avec le quatrième membre qu'on dirait, même si un deuxième bassiste, on s'en servira, ou enfin, pourquoi deux bassistes finalement?
Alors, en fait, à la base, on tournait en trio et puis. Ravi n'était pas complètement satisfait parce que il a tendance à dire je suis pas un vrai bassiste. C'est vrai qu'il a une approche de la basse qui est très proche de celle d'un guitariste, c'est-à-dire il va produire des riffs à la basse et pas des lignes de basse. Donc il manque quelque chose. Alors, au début il aurait aimé, et on se posait la question d'avoir une deuxième guitare pour quand même avoir un gros son. Et puis on était potes avec Lionel. Et Ravine lui demandait régulièrement, parce que Lionel sait aussi jouer de la guitare, rejoins-nous dans Charge à la guitare, ça serait sympa, on s'entend bien, il y a une bonne ambiance entre nous. Et puis Lionel lui disait non, et puis un jour Lionel lui a dit écoute, moi je rejoins Charge si tu veux, ça me botte, mais je joue de la basse. Et on s'est dit pourquoi pas tenter l'expérience. Et effectivement, ça fonctionnait bien. Donc, humainement, il y avait une bonne entente. Et musicalement, ça nous permettait d'explorer des choses un peu nouvelles, en fait. Et donc, ça a bien fonctionné, on a continué comme ça. c'était pas l'idée, on veut faire une musique où il y a de basse, quoi. C'est vraiment plus quelque chose qui s'est fait de manière un peu instinctive, quoi. Essayons de base voir ce que ça donne.
Et donc toi justement, en tant que batteur, on considère que il y a forcément une relation un peu particulière entre batteur et bassiste, parce que bah, vous, c'est vous qui fixez les fondations d'un titre.
Ouais.
Et donc toi, ça risquait pas de modifier ton approche des titres ou de parasiter un peu ta relation avec le bassiste ou?
D'une certaine manière, c'est très sympa. J'ai deux bassistes à disposition, on va dire. C'est-à-dire que, en fonction des chansons, moi, je peux appuyer l'une ou l'autre des basses. Et on peut. Alors, c'est vrai que c'est avec Lionel plus que je forme la section rythmique, mais c'est vrai que ça nous laisse une liberté d'alterner, en fait, hein, qui fait la section rythmique pour laisser plus de liberté à l'un des deux. Et vu que souvent, Ravine à une approche très guitaristique de la basse, c'est vrai que ça m'a un peu, entre guillemets, simplifié la vie, puisque j'ai un bassiste qui joue avec un son sans distorsion, très rond, et avec qui je vais pouvoir former, paradoxalement, de manière plus traditionnelle une section rythmique. Et pendant que, au niveau sonore, se développe aussi autre chose à la basse et à la guitare.
D'accord.
Moi, j'ai le meilleur de deux mondes, d'une certaine manière.
Ok. T'étais déjà là pour l'enregistrement des deux EP?
Non, j'étais pas dans le groupe pendant l'enregistrement, pour l'enregistrement des deux EP.
Mais t'es arrivé pour Sweet Lies?
Voilà. D'accord. À l'époque de Sweet Lies, ouais.
Donc Sweet Lies 2015. Pour toi, est-ce qu'il y a un souvenir ou il y a un élément particulier qui synthétiserait cette période Sweet Lies pour le groupe?
Difficile à dire. Alors attends. On va dire on a fait quelques concerts en province à cette époque-là. C'était à quatre dans une voiture, à partager vraiment aussi des choses en tant que groupe, et c'est quelque chose qui m'a marqué, en fait. C'est le fait de partir tous les quatre un peu faire des concerts. Que ce soit des grosses tournées, hein, mais c'est des moments effectivement qui sont un peu à part, quoi.
L'aventure humaine, quoi.
Là ?
L'aventure humaine.
Ouais, voilà, oui. Oui.
Et alors, c'est peut-être moi ce qui me fait une mauvaise impression, mais quand on lit un peu différents articles de différents sites, quand on lit votre Facebook, quand on lit même le site internet, on a le sentiment que finalement, le deuxième album devait sortir assez vite, et pourtant, il a mis 4 ans. Alors, il y a peut-être. Est-ce que c'est une fausse impression ou il y a eu des événements qui ont compliqué la tâche ?
Alors, il y a eu un processus déjà de composition, on a pris un peu notre temps, c'est vrai. Il y a une considération très simple qui est la considération économique. Sortir un album, il faut quand même avoir de quoi le sortir, en fait, au niveau financier. Mmh. Donc on a préféré attendre de pouvoir le faire vraiment correctement, tout simplement, hein, de plutôt que de bâcler les choses et de mal faire les choses. Donc voilà pourquoi il a été retardé, en fait.
Et un peu comme avant le premier album, vous aviez eu l'idée de sortir des EP intermédiaires ou non? Vous vouliez être tout de suite dans l'album?
Non, non, non. On s'est focalisé sur l'album parce que c'est vraiment le premier album de Charge avec le line-up actuel où tout le monde a composé, où tout le monde a participé. Donc c'était très important pour nous de sortir vraiment un album.
Ok. Tu me tends entre guillemets la perche. Comment finalement, comment naît, quel est le processus typique de création d'un titre au sein de Charge?
Alors, en fait, l'improvisation. On enregistre tout. Et donc, il y a des choses qui restent, il y a des choses qui nous accrochent l'oreille. Dit, tiens, ça, c'est bien accrocheur. Ce qui nous semble accrocheur, bien dynamique et bien groovy, on le garde, on l'exploite. Ça aboutit à une chanson ou pas, il y a plein de choses qu'on jette. Mais donc, c'est un travail vraiment collectif. Chacun apporte quelque chose, ça peut être Ravine qui amène un riff, Sacha qui amène un riff, Lionel qui amène une idée de basse. Moi, je m'arrive parfois de prendre la basse ou la guitare, Ravine parfois se met à la batterie. On écrit, Ravine et moi, les textes ensemble pour la plupart du temps. Donc c'est vraiment un processus collectif. Et donc tout part en fait généralement d'une idée assez simple, d'un petit riff sur lequel on va improviser et qui se développe avec les idées qu'on apporte.
D'accord. Est-ce que tu as le souvenir qu'un titre ait pu naître d'un rythme?
D'un rythme?
Ouais. Parce que je sais pas, il y a un rythme qui t'est venu en tête, que t'as joué aux autres et ça a déclenché les choses, ou c'est toujours, comme je disais, plutôt sur un rythme basse ou guitare?
J'ai pas de souvenir particulier, mais d'une certaine manière, des idées rythmiques que j'ai eues ont abouti sur, par exemple, Behind the One, le côté d'un groove très techno, électro, toutes ces choses-là. Effectivement, ça a été gardé sur la chanson parce que ça avait ce côté-là, justement. Après avoir lancé une chanson à la batterie, j'en ai pas forcément souvenir, mais on fait tellement d'impro que j'avoue que je serais bien normal de le dire.
Tu vois, pour le batteur, on se dit, le rêve, c'est une espèce d'intro à la Sunday Bloody Sunday de U2, ou... T'as un démarrage à la batterie qui, enfin, moi j'ai eu l'occasion de les voir par exemple il y a très longtemps en concert. Mulen, il commence, t'as compris tout de suite quel titre c'est. Enfin, il y a un côté, c'est peut-être le rêve du batteur.
J'en suis pas encore là, on va dire. C'est vrai que après c'est souvent, enfin, c'est en fonction vraiment de la chanson, quoi. Donc moi, c'est vrai que j'ai tendance à suivre les riffs des autres aussi, mais après c'est on va dire des rythmes que j'amène en intro sont gardés pour les chansons, on va dire, mais c'est pas forcément, je peux pas dire j'ai initié une chanson en jouant un rythme sur lequel les autres se sont greffés.
De mémoire, il y a 9 titres apparaissent sur l'album.
Oui.
Donc il y en a 9 qui apparaissent au final, mais est-ce que c'est les 9 que vous avez bossé jusqu'au bout? Vous en aviez beaucoup plus, vous avez fait un tri, vous en avez retiré certaines que vous utiliserez pour autre chose?
Non, c'est vraiment les 9 qu'on a tous fait jusqu'au bout. Alors dans la mesure où on a toujours des idées qui prennent, des intros où on se dit tiens, on va travailler ça, il y a plein de choses qu'on a achetées. Mais ça, c'est vraiment les 9 chansons qui ont été complètement abouties. Et le reste, on a acheté, vraiment, on n'a pas, c'est des choses qu'on n'a pas gardées, quoi.
Et donc sur ce Ain't the One, il y a rien qui avait pu naître de Sweet Lies.
Non.
D'accord.
Non.
Chaque fois, vous partez d'une base nouvelle.
Oui. C'est vraiment là, en plus là, c'est un travail, c'est le travail des 4 musiciens, c'est le résultat du travail des 4 musiciens.
D'accord. Le chant en anglais pour vous était une évidence, ou vous avez fait des tests avec des trucs en français?
Non, on se sentait pas du tout le chant en français. On en discute parfois, on a eu quelques discussions, mais c'est pas quelque chose qu'on consent, en tout cas dans le cadre de Charge, sans nier le fait qu'il y a des bons groupes de rock français, nous, vraiment, ça se trouve que ça sonne pas.
Ok.
On préfère des textes en anglais, même si c'est pas forcément aussi évident, vu que c'est une langue étrangère, mais...
Non, mais c'est une question de sentiment.
C'est une préférence esthétique, personnelle... Mmh.
En général, qu'est-ce que tu peux nous dire des sessions d'enregistrement chez Francis Cast de Ain't the One?
Alors, on est arrivé avec 9 morceaux écrits. On lui a fait écouter les maquettes qu'on avait fait nous, des morceaux. Et en fait, il nous a donné un regard extérieur. Dans un premier temps, il nous a dit, bon ben voilà, cette partie-là, il faudrait la changer, ça, cette intro, elle est trop longue, ce riff-là, vous pouvez pas jouer ça, les mecs, faut en trouver un autre, ça c'est trop classique, c'est trop attendu. Donc, il a eu un regard critique, nous, on attendait ça de lui, c'est une des raisons pour lesquelles on a voulu travailler avec lui, c'est que il a un recul, par rapport au travail des groupes, et il a un regard sur la musique et une sensibilité musicale assez exceptionnelle. Mmh. Donc effectivement, il a énormément apporté au morceau au niveau de des arrangements finaux, notamment donc en termes de structure, de certains riffs qui effectivement lui ouais, nous on avait le nez dedans, lui voyait ça un peu plus loin, et il a vraiment réussi à faire sonner le groupe avec les deux basses. Ce qui est pas évident, parce que nous déjà, on répète, c'est un gros travail quand même de réussir à harmoniser des basses pour qu'elles se bouffent pas l'une l'autre, hein, harmoniser deux basses. Et lui a vraiment réussi à nous faire améliorer les morceaux, en fait. Et à donner quand même une signature sonore à l'album qui à mon sens très très personnel et assez unique.
D'accord. Et donc si je reprends le process que tu viens de nous expliquer, donc ouais. Il a écouté les morceaux, il vous a fait des remarques, mais vous ouais. êtes à ce moment-là reparti chez vous, vous avez fait vos devoirs entre guillemets, vous êtes revenu en disant bah voilà, on a pris en compte tes remarques.
Ou... Mais non, il y a des choses qu'on a retravaillées, bah c'était un peu au dernier moment, hein, c'est sûr, mais on s'est vu je pense 2 semaines avant le début de l'enregistrement et on a effectivement, il nous a dit voilà, bon, il nous a parlé du son qu'il voyait pour l'album, qui était celui qu'on voyait aussi, un son assez organique, un son assez live, hein, très, très, mmh. très, très, très brut de décoffrage. Donc effectivement, il y a des choses qu'on a retravaillées, même jusqu'à la veille de l'enregistrement, et même parfois, bah, en enregistrant, il y a des choses qu'on a encore changées, parce que l'idée c'était quand même de produire le meilleur album possible, et qu'il avait un regard qui était très pertinent là-dessus. Donc après, bon bah l'enregistrement, c'était classique, hein, batterie, les deux basses, puis les guitares, puis les voix.
Combien de temps?
Mais non, pas tout en même temps, non, à la suite, successivement.
Mais je veux dire, vous avez pris combien de temps en tout?
Ah, combien de temps? Ça a pris un mois, un peu plus d'un mois.
Et toi, t'es parti de batterie en particulier?
Mes parties de batterie, ça a pris une semaine.
Une semaine, d'accord.
Une semaine, ouais.
Ah, avec, si tu te souviens en moyenne, c'est combien de prises par titre?
Par titre, je faisais 3-4 prises. Il faisait faire 3-4 prises, en fait. Oui, on faisait grosso modo 3 morceaux par jour.
Et là, je rentre un peu dans le détail, mais la prise qui apparaît sur l'album, c'est une prise en un bloc ou c'est du découpage, remontage?
C'est un travail de production que lui a fait après.
D'accord.
Il y a certains passages qui ont été remontés après parce qu'il y a des, en fait, il y a des décisions artistiques, on va dire, qui ont été faites. Okay. Parfois, d'encore changer les structures après que j'ai fait une prise de basse.
D'accord. Okay.
Effectivement, il y a eu un peu de montage.
D'accord. Ça permet de coller à l'esprit final, quoi.
Voilà.
D'accord.
Là où il est impressionnant, c'est qu'il a quand même vraiment préservé le côté de ce que j'avais enregistré. Quoi.
Prendre une semaine, ça peut paraître très long et très court. Ça permet quand même de faire des essais, je sais pas, sur le positionnement des micros, les types de micros.
Oui, on a passé une journée à travailler le positionnement des micros. On a passé donc une journée pleine hein, vraiment à tout régler, à accorder la batterie, positionner les micros, à faire quelques petits tests pour que lui voit un petit peu comment ça sonnait. Ensuite, ça a été 3 jours d'enregistrement des parties de batterie. Mmh. Le 4e jour, il m'a fait faire des overdubs et puis il a fait du nettoyage pour une partie de la journée.
D'accord.
Et donc bah les overdubs, alors ça faut que je précise, parce que les overdubs de batterie en fait c'est notamment, c'est surtout sur l'album il y a des morceaux où la caisse claire et sonne très électro. Et donc en fait à la base ce n'est que de l'acoustique, il n'y a pas d'électronique. C'est-à-dire que je jouais avec une petite cymbale posée sur une caisse claire en fait.
D'accord.
J'ai fait doubler toutes les parties de caisse claire. Moi, c'est quelque chose que j'utilisais sur certaines chansons, parce que je trouve que ça apportait justement la texture sonore. Et lui, il a peut-être des paradis, mais c'est génial ton truc. Ça peut donner vraiment une signature sonore personnelle à l'album. Et il m'a fait overdubber la totalité des parties de caisse claire. Et il a ensuite, alors par contre, il a sélectionné, lui, selon lui, ce qui était le mieux, et puis il s'est avéré qu'il avait pas mal raison. Moi, j'étais complètement d'accord avec lui.
Ok. De mémoire, vous aviez déjà eu l'occasion de bosser avec lui sur, je sais pas si la totalité, une partie de Sweet Lies, je sais plus.
De mémoire, quoi ?
Vous aviez déjà eu l'occasion de travailler avec Cast ?
Oui, oui, il avait fait les deux premiers EP de Charge, et effectivement, bah, Sweet Lies, il a participé aussi, forcément. Ce Sweet Lies, en fait, c'est la réunion des deux premiers EP de Charge. Donc,
Et
donc, effectivement, oui. C'est quelqu'un, alors moi, je le connaissais un peu, Ravi le connaissait très bien, vu que c'est le membre original de Charge et qu'il a toujours enregistré avec lui. Donc, c'est vrai que c'était une évidence, d'une certaine manière, de travailler avec lui, quoi.
D'accord. Mais vous avez pas spécialement modifié votre façon de travailler par rapport à la première expérience, même si vous avez moins connu, quoi.
D'une certaine manière, non, parce que ça fonctionne, en fait. Simplement, hein.
D'accord, non, mais bonne réponse.
Ouais, non,
un élément également important, enfin en tout cas à mes yeux, c'est le visuel.
Oui.
Donc là, qui est en même temps simple, mais efficace, comment vous l'avez bossé?
Ouais. Alors c'était réalisé par Lionel, notre bassiste, qui est aussi infographiste. Et on a un peu cherché quand même. On en a un peu discuté parce qu'on n'était pas forcément sûr. Le concept de l'enfant qui saute par-dessus la foule, mais effectivement c'est d'une certaine manière, parce que ça résume bien l'état d'esprit de Charge, quoi, ça résume bien ce qu'on est. C'est-à-dire, on est, d'une certaine manière, on reste dans une espèce d'esthétique rock traditionnelle, avec le concert, cette espèce d'énergie qu'il y a dans le rock. Mais effectivement, on ajoute un élément qui casse cette esthétique rock traditionnelle, et qui est l'enfant, qui est peu exploité. On nous a fait des références à la pochette de Nirvana, mais Nous, on n'y a pas pensé sur le moment, et puis la pochette des Nirvana avait un message très très politique que nous on n'a pas dans le Charge. Donc c'est vraiment évoquer quelque chose d'instinctif, de direct, de voilà.
Mais juste pour rentrer un peu dans le détail, c'est une photo qu'il a trouvée quelque part et puis qu'il a après modifié et adapté à ce que vous vouliez, ou vous avez balancé un gamin X fois pour avoir une photo?
Alors, on a balancé un gamin.
D'accord.
Mais c'est réalisé par des professionnels. Hein.
Ok.
Non, je plaisante. Non, c'est une image.
C'est un stock photo qu'il a trouvé, qui lui plaisait et qu'il a remodifié. D'accord. Vous n'avez violenté le cousin ou petit-neveu de personne?
Non. D'accord. Aucun enfant n'a été maltraité
pendant la
réalisation.
Ok. c'est bien de le rappeler. Toujours dans le domaine visuel, à l'époque de Sweet Lies, vous aviez réalisé un clip d'ailleurs assez soigné pour 84,
oui.
Pour 84. Alors déjà, plusieurs questions à tiroir. Un, est-ce que c'était ta première expérience d'enregistrement de clip? Deux, est-ce que quel souvenir tu en gardes? Et trois, est-ce que vous avez des projets de ce genre-là pour In the One?
Alors oui, c'était notre premier clip, IT4. C'est un très bon souvenir parce que la première fois, c'est toujours impressionnant. Et puis surtout, bah pareil, on était avec quelqu'un qui est un ami aussi et qui sait vraiment bien filmer, quoi, qui nous a dirigé, qui nous a guidé, alors que nous on n'y connaissait rien en fait. C'était vraiment très agréable. C'était très marrant d'aller tourner. On a tourné ça à côté du studio, on répète, là, au Luna Rossa à Paris. On a tourné ça dans les anciens frigos de Paris. C'est un endroit qui est assez particulier, quoi, donc c'est un super souvenir.
Mmh.
Et puis pour In The One, on a un clip qui est en cours de finalisation, qui doit sortir en avril, qui est basé sur Out of My Life.
D'accord.
Et donc qui sera un dessin animé en fait, mais qui restera cohérent avec ce qu'on a développé par rapport à l'album, le niveau des concepts qu'on développe sur le visuel de l'album.
D'accord. Là aussi, ça me permet d'aborder un aspect business. Pour un groupe qui n'est pas encore numéro un des charts et connu mondialement, un clip, ça reste encore un outil promo nécessaire, important, ou en même temps vous faites plaisir?
C'est un outil promo important en fait, parce que ça permet d'accéder et de toucher des structures un peu plus grosses que ce qu'on pouvait toucher auparavant. Ne serait-ce que il suffit plus d'envoyer un book et un CD, quoi. Faut aussi envoyer le lien vers le clip. Enfin, il faut que ce soit des vidéos d'une très bonne qualité et quelque chose de très bien réalisé.
Donc pour décrocher des concerts, ça devient un élément clé.
Éventuellement pour décrocher des concerts, oui.
D'accord.
Oui, oui. Et pour promouvoir la musique, ça reste aussi incontournable, quoi. Ça passe sur Internet.
Ouais, mais il y a toujours on peut dire il y a YouTube, mais YouTube, il y a l'équivalent, je sais pas combien, un millier de clips toutes les secondes qui sont chargés.
Ouais.
Donc on se dit, il y a le risque d'être noyé dans la masse.
Non, bah ça, on en est bien conscient. Mais bon, c'est pareil, ça reste un outil promotionnel et ça permet aussi de se vendre. Donc ça, c'est un peu incontournable et ça devient même de plus en plus nécessaire si on veut accéder à certains festivals, à certains concerts.
D'accord. Et dans le même genre, est-ce que un, vous vous intéressez et deux, est-ce que vous êtes présent sur les sites de streaming?
In The One est en vente sur Deezer, donc il est présent sur Deezer, sur s'il y a d'autres, iTunes,
sur Spotify.
Spotify, oui. Oui, je crois que c'est les trois principaux.
Mmh.
Et puis pour l'album à venir, on sera aussi présent sur les sites de streaming.
Et donc ça aussi, c'est une obligation maintenant?
On n'a pas trop le choix, oui. Cette année en France, les ventes de musique digitale ont dépassé les ventes physiques, je crois bien.
C'est possible.
Je crois avoir lu quelque chose récemment là-dessus. J'avoue que je ne suis pas très au fait des statistiques de vente.
Ah, puis je crains que, et c'est pas avec le streaming, vous allez faire fortune. Mais je dis ça, je dis rien, mais bon.
Non, c'est sûr. Non, c'est, je pense que, mais là, c'est actuellement, ce qui se dit, c'est que c'est au travers des concerts et des tournées qui se font de l'argent. Les ventes physiques de CD sont en chute libre et qu'Internet, ça rapporte pas, donc.
Ouais, ben, je suis d'accord. Enfin, c'est ce que me disait un membre d'un gros groupe métal européen il y a quelques jours. Donc, vous partagez tous le même constat.
Ouais, mais c'est assez impressionnant. Hein.
Et donc, pour terminer cette interview, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou quelles sont tes attentes pour 2019 pour Charge?
Pour 2019, bah, déjà pouvoir faire faire beaucoup de concerts pour promouvoir l'album et puis pour promouvoir Charge. Et puis que tout le monde vienne à la Boule Noire le 29 mars et surtout des gens qui connaissent la Charge pour pouvoir nous découvrir vraiment en live, quoi.
Parce que là, effectivement, vous avez annoncé quelques dates de mémoire sur le site.
Oui.
Il y a d'autres choses dans les tuyaux.
Oui, il y a le 29 mars à la Boule Noire, la release party. Puis on est en train d'organiser d'autres dates là, mais c'est encore en cours de discussion.
Sur Île-de-France ou plus loin?
Île-de-France et plus loin, les deux.
Les deux.
Les deux. Là, on est. On a envie d'un. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué en province et on a envie de retourner jouer en province.
Bah écoute, en tout cas, tous mes vœux pour cette année et la suite, et puis on se dit à très bientôt, j'espère, sur scène.
Oui, bah j'espère aussi.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
À bientôt.
Ciao.
Au revoir.